France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que la notion de consentement est entrée dans la loi espagnole le 6 septembre 2022 et qu'en France, le procès des viols de Mazan a fait surgir des débats importants quant à cette notion, la philosophe militante féministe espagnole Clara Serra publie son premier essai, traduit en français par Étienne Debenesque aux éditions La Fabrique, un ouvrage intitulé « La doctrine du consentement ». Dans ce livre, elle s'attache à repenser, à replacer cette notion ambivalente dans un cadre plus général pour aller à l'encontre d'une définition univoque, voire simpliste, qui règne dans les débats médiatiques et politiques actuels. Alors qu'entendons-nous par consentement? Quelles sont les limites et ses conditions politiques, philosophiques, morales, voire juridiques? Pourquoi cette notion est-elle encore entourée de zones d'ombre? Pour en parler, bien sûr, et évidemment, Clara Serra, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup à Paloma Goulmeau qui assure l'interprétation en espagnol de cet échange. Merci à vous deux d'être présentes ce soir dans Question du Soir. Et je commence, Clara Serra, par vous citer un extrait du livre que vous venez de faire paraître. « Le problème politique et théorique que pose la question du consentement semble de plus en plus nié et escamoté. » Pourquoi est-ce que vous affirmez ceci ?
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Bueno, creo que l'actual manera de presentar el problema o el consentimiento más bien
la
como
la façon dont on présente le consentement en disant que c'est une solution à tout. Parfois on dit que c'est simple. Que c'est une solution simple, qui est inéquivoque et qui n'entraîne pas un débat politique compliqué. Mais à mon sens, l'histoire et du débat politique de manière générale, mais aussi dans les débats féministes, cela entraîne autre chose. Le consentement n'a jamais été compris et abordé comme quelque chose d'évident. Simple en soi. Et autour de cela, il y a plein de questions politiques de fond qu'il faut reprendre. Je voulais reprendre ces débats féministes qui existent depuis les années 80, les reprendre sur un autre plan et que l'on essaie de comprendre vraiment quel est le sujet du débat et comprendre quel est ce mot du consentement. Elle est polysémique. Le consentement est un mot polysémique et qu'on l'utilise pour des choses très différentes.
Alors, on va essayer de décortiquer avec vous justement l'histoire de ce terme polysémique. Vous l'avez dit, je voudrais vous faire entendre une députée socialiste qui s'exprimait à l'Assemblée de Madrid. Elle s'appelle Laura Berja et elle s'exprimait justement le 26 août 2022 au moment où cette fameuse loi espagnole qui revoit en profondeur la notion de consentement est passée à l'Assemblée.
Aquí es que esta ley supone un cambio de paradigma.
Cette loi représente un changement de paradigme, un changement complet de paradigme. S'il n'y a pas de consentement explicite de la part des femmes, alors il s'agit d'une agression. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous réduisons les interprétations machistes et sexistes sur le comportement des femmes. Ça suffit de dire qu'on portait des jupes trop courtes ou non. Ça suffit.
Expliquez-nous, Clara Serra, nous qui sommes loin, sans doute trop loin d'ailleurs, des débats espagnols contemporains, quel est ce changement de paradigme apporté par la loi qui est passée, je le rappelle, en 2022 ?
Bueno, la primera cuestión es precisamente si ha cambiado el paradigma.
La primera question à se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme?
Cuando digo que estamos ante una palabra polisémica,
quand je vous ai dit que c'était une terminologie polysémique et qu'il ne faut pas penser que c'est une évidence, je veux dire que le consentement peut impliquer deux choses. Le premier sens qu'on peut lui donner, on pourrait le comprendre comme la recherche d'une relation sexuelle voulu. En ce sens, je crois qu'on ne peut pas dire que nos lois ont compris le consentement et l'ont intégré. Le consentement est une tradition qui vient avec le libéralisme et je crois qu'en France, tout particulièrement, on peut reprendre des auteurs comme Rousseau qui défendent cet élément de modernité à travers le consentement. Donc, ça n'a rien de nouveau en ce sens. Si en revanche, le consentement était présent dans la législation et dans le code pénal. Alors peut-être qu'il est de bonne, une bonne législation et peut-être qu'il faut mener une réforme. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose que la loi porte vraiment. Et ça, ce que je veux dire, c'est que la loi française reprend cette notion de consentement, elle reprend un principe qui est implicite.
Il faut rappeler ce que la loi française dit exactement. Dans les faits, pour qu'une agression ou un viol soit reconnu selon le code pénal, la loi française exige la démonstration de violence, menace, contrainte ou surprise. Comment vous analysez vous-même, ces quatre motifs? Est-ce qu'ils suffisent à définir un viol ou il y a des manques, des béances dans cette législation française telle qu'elle existe?
Yo creo que lo que tienen en común esos cuatro elementos,
le point commun de ces quatre éléments que l'on retrouve dans la loi française, c'est que aucun d'entre eux ne sont compatibles avec la notion même de consentement. Pour être clair, ce que les lois ont tenté de faire jusqu'à maintenant, c'est d'arriver au consentement de façon négative, par la négative. On essaie de trouver l'absence de consentement.
Alors,
c'est pas que le paradigme français est contraire au consentement, c'est pas du tout ça, c'est plutôt que la doctrine ou la théorie a été une doctrine complètement négative.
Et
à mon sens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle doctrine du consentement qui s'appelle la doctrine positive ou affirmative du consentement qui vient, en fait, qui nous est venue des États-Unis et de ce contexte. C'est une doctrine anglo-saxonne. Selon cette même doctrine, le consentement doit toujours être positif, affirmatif. Et si l'on suit ces pensées, cette façon de réfléchir, on introduirait donc le consentement pour la première fois dans la loi. Je crois que c'est l'une des grandes discussions et débats qu'il faut mener. Non pas qu'il faut introduire le consentement dans la loi, parce que c'est déjà le cas, mais quelle est la doctrine et quelle est la façon dont nous allons comprendre ce consentement et quel est celui que nous voulons défendre.
Si je tire le fil de ce que vous êtes en train de nous expliquer, Clara Serra, si l'on tente, en vous suivant, de définir positivement cette notion de consentement, est-ce que le consentement, dans votre façon de voir les choses, s'assimile alors à la volonté? Est-ce que consentement et volonté deviennent synonymes à ce moment-là?
En realidad, creo que la noción clásica de consentimiento y
à mon sens, la notion classique de consentement, et comme j'ai dit, ça revient à la modernité, au libéralisme, c'est donc cette définition revient sur une expression de la volonté, c'est-à-dire que le consentement et la volonté ont été souvent compris comme des synonymes, en tout cas dans le droit. Dans la législation. À mon sens, la doctrine positive du consentement veut que l'on comprenne le consentement d'une autre façon, c'est-à-dire un consentement qui doit être enthousiaste. C'est-à-dire que le consentement n'a pas tellement grand-chose à voir avec la volonté, mais plutôt passe par le désir. Alors donc, accepter une relation sexuelle, un acte sexuel, devrait être positif et devrait être accepté avec enthousiasme. Ce que veut dire, c'est que le consentement n'est pas simplement accepter ce que l'autre propose, mais qu'en plus, il doit être la réponse à un désir ancré et profond. Et c'est ce que défend aujourd'hui, c'est ce qui se défend depuis les États-Unis aujourd'hui, et ce qui en Europe a été compris et accepté, assimilé même. Il y a maintenant des pays qui essaient d'en sortir. Ce que moi je dis dans cet essai, c'est que le consentement doit être simplement compris comme la volonté, l'acceptation dans sa volonté. Sinon, on se mêle du désir même de l'individu face au consentement.
Et si je continue là encore de vous suivre, Clara Serra, ce que vous expliquez bien et très bien dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Fabrique, c'est que les notions traditionnelles de consentement font fi très souvent des questions de domination. On peut dire oui à une relation sexuelle, on peut exprimer son consentement tout en ressentant une absence de désir, un manque profond de volonté. C'est le cas lorsqu'on est contraint financièrement de dire oui, lorsqu'on est contraint pour d'autres raisons de dire oui à un acte sexuel. Expliquez-nous justement comment désir et consentement se découplent dans les situations où l'équilibre en matière de domination n'existe pas.
Je crois que ha formado parte de una tradición crítica con el liberalismo
À partir du libéralisme et de la formulation critique du libéralisme, on nous a expliqué de quelle manière on devait donner son consentement. Et c'est quelque chose qui va bien au-delà de la notion même de féminisme. C'est-à-dire que si on pense à la tradition marxiste, dans cette tradition, il dit que parfois on accepte des contrats, par exemple de travail, dans des conditions qui normalement sont qu'on ne peut même pas refuser. C'est-à-dire que la nécessité fait que vous acceptez un contrat de travail, mais en fait, il vous est impossible de le refuser ou de l'écarter. À mon avis, la position antilibérale que le féminisme a voulu défendre devrait nous amener à nous poser la question suivante. Est-ce que les femmes, et c'est une question éthique, sont dans une position qui leur permettent de refuser ou d'écarter ces relations sexuelles avec des hommes dans des situations où il y a cette relation de pouvoir? Je crois qu'il existe un féminisme qui dit que les hommes ont toujours ce pouvoir, que les femmes sont toujours face à ce pouvoir et ne l'ont pas entre leurs mains. Et donc une femme ne peut jamais accepter ou approuver une relation sexuelle. Et c'est ça ce que Catherine MacKinnon dit dans ce consentement positif et affirmatif. C'est cette mise en question, ce questionnement en fait de ce qu'est ce consentement affirmatif, cette possibilité qu'ont les femmes d'approuver ou de refuser ou de dire que n'acceptent pas cette relation sexuelle, eh bien cela veut dire que si ce consentement est enthousiaste, eh bien il y a ce désir. Alors si on peut vérifier qu'il y a un désir profond, alors oui, on peut dire qu'il y a cette liberté et que les femmes ont donné leur consentement en bonne et due forme. Et moi je pense que c'est faux, parce que cela permet à la loi de rentrer dans une partie très privée de l'individu. Et la loi commence à vérifier si effectivement dans le monde et dans l'espèce, il existe ces conditions. C'est là où moi je pense que le slogan non est non, et c'est ce que je présente dans le livre, ce que je débat. Oui, un non est un non. Qu'il faut en fait reprendre si l'on veut vraiment parler de liberté.
Je voudrais vous faire entendre, Clara Serra, la voix de Geneviève Fraisse que vous citez abondamment dans votre ouvrage, philosophe de la pensée féministe et directrice de recherche émérite au CNRS. Elle s'exprimait en 2017 dans les chemins de la philosophie.
Ça fait quelques années que je dis que le mot consentement est archaïque. C'est parce que précisément, parce qu'il a cette épaisseur complexe, on peut peut-être discuter de ce que serait la volonté des parties. Les parties consentantes. Les parties consentantes, c'est deux volontés, c'est une question de volonté. Et là, on rentre, si vous voulez, dans l'espace collectif. J'ai pas écrit ce livre pour parler du consentement individuel, uniquement de la question du rapport entre un homme et une femme, ou un individu et un autre individu, féminin ou masculin. J'en ai parlé parce que c'était employé comme un argument politique. Comme quoi, il y aurait des consentements collectifs. Et c'est très intéressant de voir que la question qui est soulevée est une question d'un consentement collectif. Et c'est là où je pense que le mot consentement va peut-être devoir être émancipé ou abandonné. Et je propose le mot volonté. Mais si vous voulez, le mot volonté ne restituera plus le rapport. Mais le mot volonté aura une clarté qui effectivement permettra qu'on sorte de certaines discussions qui s'épuisent ces jours-ci autour de ce que c'est que le consentement.
Alors Clara Serra, est-ce qu'il faut suivre Geneviève Fraisse, que Fraisse laissait tomber, j'allais dire, et je caricature à dessein, mais laissait tomber le terme de consentement et adopter celui de volonté, plus précis sans doute?
Je dirais que, en termes juridiques,
si on reste sur ce qui est juridique, je pense que, au niveau juridique, ce doit être des synonymes. C'est comme ça que moi je comprends. Et je pense que, au final, si l'on s'arrête sur le langage juridique, sur tout ce qui est le droit, oui, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le sens que dit Geneviève Fraisse, mais moi je dirais que ce n'est pas simplement et ça ne permet pas de dire clairement ce qu'un individu veut. Je pense que l'individu est beaucoup plus profond, beaucoup plus de facettes. Et la loi ne peut pas être aussi claire, aussi simple. Ce qui veut dire, c'est que le consentement, souvent, est précaire lorsqu'on parle d'une relation entre deux individus, des relations humaines. L'amitié n'est pas quelque chose qui passe par le consentement. L'amour ne passe pas par un consentement. Je crois que le désir non plus passe par un consentement. Et tous ces éléments ne passent pas par un contrat. consentement. Donc une relation humaine va bien au-delà du consentement. Et j'irai même plus loin. Je dirais même qu'on va bien plus loin que ce consentement et qu'on aspire à quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que je voulais dire dans cet essai. Face à un discours hégémonique qui semble dire que le consentement, c'est la recette magique, qui nous promet tout. Alors, non seulement on va plus souffrir de violence, on va plus être face à une violence qui est exercée, le sexe va être quelque chose de merveilleux, on va se trouver avec l'autre, on va être satisfait, la jouissance, tout sera là, mais je crois que ces choses-là ne passent pas par le consentement, et le consentement n'est pas cette promesse-là.
Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur une affaire intitulée l'affaire de la Manada. C'est une affaire qui a été très très importante en Espagne et qui est exemplaire sans doute de ce que peut malheureusement la culture du viol. Je rappelle d'un mot, en 2016, cinq hommes qui se sont surnommés la Meute, c'était le nom de leur groupe WhatsApp où ils échangeaient des vidéos, ont violé tour à tour une jeune femme de 18 ans lors des fêtes de Pamploune dans un hall d'immeuble. L'événement sordide a été filmé. Qu'est-ce que cela a impliqué du point de vue politique en Espagne à ce moment-là?
Yo creo que pasaron varias cosas. Por una parte, pasó
que se sont passées plusieurs choses. D'abord, il y a eu cette affaire et il a montré à quel point il y avait donc les juges étaient très machistes. Et c'est un des sujets qui est un sujet de débat. Et que le féminisme a réussi à remettre sur le devant de la scène. Il y a de nombreux juges, d'avocats dans des tribunaux qui doivent juger dans des cas de viol et considèrent qu'il y a un consentement alors qu'il n'y a pas eu de consentement. Un des juges sur cette affaire a eu des paroles qui ont soulevé une indignation totale. Et il a dit que c'était en fait c'était plutôt sympa.
Je précise d'un mot effectivement qu'il y a eu tout ce débat sur le consentement parce que la femme qui a été violée justement par ses agresseurs ne se débattait pas sur la vidéo et toute la question reposait justement là-dessus.
Si. Claro. Este caso pone sobre la mesa que hay algunos
explique qu'il y a dans certains cas où il ne peut pas avoir une négation, il ne peut pas avoir un refus. Le refus n'est pas possible.
Es exactamente lo que ocurre en la, et c'est ce qui se passe al final se
à la fin de ce procès et que finalement il y a appel et donc il y a une décision qui peut être... Dans la situation telle qu'elle était, cette femme ne pouvait pas refuser. Ce que moi je dis dans le livre, c'est que ces situations, ces affaires qui font qu'il y a ce débat sur le consentement, on ne peut pas trouver une solution à ces affaires avec un consentement positif. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas qu'elle n'a pas dit oui, parce que si elle avait dit oui, elle aurait dit oui, mais le contexte aurait été très complexe, puisqu'elle aurait été menacée, on l'aurait intimidée, et ça aurait continué à être un viol. Elle aurait pu dire oui, mais ça aurait toujours été un viol. Et donc c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que si on dit oui et oui, cela permet d'être une solution à tout, alors que parfois on dit oui, mais on ne peut pas considérer que c'est un vrai consentement? Pour moi, c'est beaucoup plus protecteur de venir non et non. Un non est un non. Et donc, le problème de la Manada, c'est qu'elle ne pouvait pas dire non, parce qu'elle avait peur, parce qu'il y avait une véritable menace, et puis on l'intimidait.
Et
je crois que là, on peut rejoindre le débat français. Souvent, on pense que le consentement va être magique et sera la baguette qui va être la solution à tout. Mais je crois qu'il faut que les lois reprennent bien au cœur du débat et au cœur de leurs décisions. La situation même. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a une coercition et tout ça?
Vous défendez justement, Clara Serra, cette idée qu'il faut recontextualiser les viols, les agressions sexuelles pour tenter de comprendre s'il y a eu un rapport de domination. Mais est-ce que ce n'est pas déjà ce que font les procès? Est-ce que les procès ne servent pas justement à retracer les histoires, à tenter de comprendre les rapports de force, à tenter de comprendre s'il y a eu justement de la coercition, de l'incitation dans le fond? Un procès, c'est une recontextualisation au long cours, non?
Est-ce que siempre el derecho tiene que ponerlo en un contexto?
Ah bah oui. Le droit, remettre tout dans le contexte. Le droit, c'est l'application d'une législation et c'est la remettre dans le contexte, dans ce cas particulier qu'elle a fait. Donc normalement, oui, on doit remettre tout dans un contexte, dans une situation, et c'est là que cela doit bien marcher, fonctionner, que les rouages doivent suivre leur cours. Le problème du consentement, c'est que on n'en parle pas comme si c'était un principe. C'est comme si c'était quelque chose que l'on doit démontrer, quelque chose qui est transparent. Quand la loi dit que les relations doivent être consenties, ça veut dire que l'on doit les interpréter dans un contexte particulier et concret. Et c'est là où est le problème. Et c'est difficile dans le droit de comprendre dans une affaire. Moi, je suis d'accord en disant que ce qui est au cœur de la relation sexuelle, c'est le consentement. Mais la preuve, apporter la preuve, ben c'est après, juste après.
Je voudrais vous entendre peut-être aussi sur le procès des viols dits de Mazan. Il y a eu énormément de journalistes internationaux qui ont suivi cette affaire, qui ont bouleversé la France, l'Europe et bien au-delà. Quelle résonance ce procès a-t-il eu en Espagne et peut-être aussi dans les cercles féministes en particulier ?
Alors, oui,
effectivement, ça a été suivi de manière très, très importante, mais ça a été suivi non seulement dans les cercles féministes en Espagne, mais partout, parce que cela reprenait ce sujet de violence sexuelle. Donc ça a été très suivi. Je crois que le sujet qui est remis sur la table, c'est le problème même des violences faites aux femmes, où le violeur, comme on dit les féministes, c'est souvent quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un de proche. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre un couteau sous la gorge dans la rue, mais ça peut être quelqu'un qui vous attaque dans un lieu sûr, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être au sein d'un mariage. Effectivement, cela a été aussi une affaire qui a fait ressortir le débat sur le consentement et nous dire qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour le féminisme. Moi, je reviendrai à dire que le cas de Mazan vient redémontrer que le problème n'est pas tant que Dominique Pellicot ait dit oui. Et ceux qui étaient les accusés, si je me souviens bien, ont commencé à se défendre en disant qu'il pensait qu'elle avait consenti. En ce sens, dire que les relations sexuelles passent par le consentement ne sont en rien une solution au problème. Au contraire, mais est-ce que quelqu'un qui est inconsciente, une personne qui a été droguée, elle peut donner son consentement ? Là est la question. Alors, peut-être que là, on devrait se dire que dans la langue française, dans la loi française, pardon, on devrait repenser à quelqu'un qui est drogué. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, il peut y avoir un consentement ? Est-ce qu'il faut introduire cela dans la loi ?
On dit beaucoup, hein, Clara Serra, en France en particulier, que les Espagnols, je parle des femmes espagnoles, que la législation espagnole sont à l'avant-garde sur les questions féministes. C'est vrai du point de vue de la législation, hein, c'est vrai objectivement. Est-ce que vous, en tant que militante féministe espagnole, vous avez ce sentiment d'être à l'avant-garde sur beaucoup de ces questions en Europe ? Ou est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre une telle remarque intérieurement, ne serait-ce que parce que les combats doivent continuer de progresser.
Je crois que hemos avanzado mucho y hemos abierto muchos debates.
Nous avons beaucoup avancé, nous avons fait naître de nombreux débats, nous avons pu faire avancer la société et je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'avancées. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à régler. Mais ce que moi je voulais faire avec cet essai, c'était sur ce qui est le consentement. Nous avons deux chemins. Un premier chemin qui est celui d'améliorer les lois, de revoir ces lois qui portent sur le consentement en remettant les affaires dans les situations et dans leur contexte. Ou alors on peut prendre une autre voie en prenant que celui de un oui est un oui, qui est le consentement positif, qui ferait qu'on changerait complètement l'idée même de consentement et la notion même de consentement. Et peut-être, je dirais, qu'on parle de consentement, mais ce sont deux voies différentes, deux voies juridiques différentes, deux façons de comprendre un même terme de façon différente. Et je crois que la voie américaine n'est peut-être pas la meilleure. Et je pense que les avancées féministes peuvent nous permettre de comprendre que ce qui se joue est important et qu'il faut prendre le meilleur chemin.
Vous voyez encore un intérêt à transformer la loi, à faire évoluer la législation. Je sais que c'est aussi un débat qui traverse le champ militant, notamment dans le domaine du féminisme. Est-ce qu'il sert encore à quelque chose de transformer la loi, ou bien la lutte se joue ailleurs, dans d'autres cercles ?
La loi française ou la loi espagnole ?
La loi espagnole et française, d'une façon générale, théoriquement, est-ce qu'il faut encore transformer la loi ? Évidemment, on parle de pays qui sont, j'allais dire, en progression sur ces sujets.
Je suis d'accord con que la loi française introduzca la notion de consentimiento.
Je suis d'accord que la loi française introduit cette notion de consentement, et je crois qu'elle viendrait simplement reprendre un principe qui est implicite. Alors, ce ne sera pas une révolution, ce ne sera pas un changement de paradigme.
Atendiendo a los límites del consentimiento,
sur ce qui porte sur le consentement et ses limites, je dirais que le changement de culture sur cette société de viol ne se fera pas à travers le code pénal. Alors oui, le code pénal doit être là pour des affaires comme celle de Mazan ou la Manada. Mais je crois qu'il y a des gens qui essaient de dire que le changement de cette culture du viol, où un adolescent et une adolescente ne se comprennent pas, ou qu'il y ait des préjugés machistes font que deux personnes n'arrivent pas à se comprendre, eh bien, pensent que la solution passe par le code pénal. Je ne crois pas. Je pense que la solution, c'est une solution culturelle, une solution éducative. Je crois qu'on confond et on fait mauvaise route si on pense que tout passera par le droit pénal. Ma question est, quelles sont les autres choses à faire pour changer cette société du viol, et est-ce que ce sont des politiques qui passent par l'éducation et par la transformation un peu du sens commun et de l'idée générale?
Merci beaucoup Clara Serra. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La doctrine du consentement, cela paraît en France, à la Fabrique. Et merci à Paloma Goulmeau pour l'interprétation de cet échange. Merci d'être venu à Question du Soir. Merci beaucoup.